Politique américaine, Vincent Gosselin.
Vous êtes à l'écoute de Choc FM 105.1, ici Guillaume Laurin. C'est maintenant le moment de parler un petit peu de politique étrangère et de politique américaine, puisque lundi dernier, le collège électoral américain a entériné la victoire présidentielle de Joe Biden, qui devient donc maintenant officiellement 46e président des États-Unis. Pour en parler, j'ai le plaisir de rejoindre notre spécialiste de la politique américaine, Vincent Gosselin. Bonjour Vincent.
Bonjour, monsieur Lorraine.
Vincent, ce collège électoral élit Joe Biden. On doit quand même attendre encore quelques jours avant que cette élection prenne effet, n'est-ce pas?
Oui, tout à fait. Lundi, c'est une grosse étape, par contre, qui a été franchie. Les grands électeurs se sont rencontrés dans leurs états respectifs pour enregistrer leur vote. Vous savez, on en a déjà parlé, le suffrage universel indirect des États-Unis fait en sorte que le vote populaire du pays n'a aucune importance. Ce sont donc les 538 grands électeurs formant le collège électoral qui comptent vraiment. Il en faut donc 270 pour être président, ce qu'avait déjà Joe Biden avec 306. Donc, faisons un peu de maths ensemble. 538 grands électeurs divisés par 2, on a 269. La majorité absolue plus 1 est à 270. Donc, évidemment, le nombre de grands électeurs est attribué à chaque État selon leur délégation de législateurs au Congrès. Donc, le nombre de représentants à la Chambre, qui est déjà proportionnel à la population, plus 2 sénateurs pour chaque État. Évidemment, la population est prise en considération par ce fait-là, ainsi que la représentativité de tous les États qui ont tous leur mot à dire dans le choix du président, y compris les petits États. Et le gagnant du vote populaire d'un État prend l'entièreté des grands électeurs de celui-ci. Alors, c'est tout ou rien, sauf dans le Maine et dans le Nebraska, mais le nombre de grands électeurs peut également varier selon les données démographiques du recensement qui se tient une fois à toutes les 10 années.
Alors évidemment, on s'attendait malgré tout à cette élection, à ce choix du collège électoral. Est-ce que vous pouvez nous préciser, Vincent, qui sont ces grands électeurs aux États-Unis et est-ce qu'on a eu des surprises?
Généralement, chaque parti dans chaque État prépare préalablement une liste de grands électeurs. Si l'État vote démocrate, alors ce sera la liste démocrate et donc les grands électeurs démocrates qui seront appelés à voter, inversement si ce sont les républicains. Donc, les grands électeurs, qui sont-ils? Ce sont des citoyens, très souvent des élus, des anciens élus ou des gens actifs dans le parti en question. Par exemple, dans l'État de New York, le gouverneur de l'État, Andrew Cuomo, est un grand électeur, ainsi que Bill et Hillary Clinton, qui en sont aussi, qui ont voté lundi en tant que grands électeurs de l'État de New York. Mais encore une fois, c'est un fonctionnement qui peut différer d'un État à l'autre, mais non, aucune grande surprise hier, Joe Biden qui a récolté les 306 grands électeurs prévus, 232 pour M. Trump, aucune surprise cette année.
Et est-ce que les grands électeurs sont obligés en fait de voter selon le résultat du vote dans leur État?
Oui et non. Il n'y a aucune loi fédérale qui oblige ça et la Constitution indique qu'un grand électeur peut voter selon sa conscience, mais la Cour suprême a statué en juin que les États peuvent punir les grands électeurs, souvent sous forme d'amende ou nommer quelqu'un d'autre à leur place lorsqu'ils ne veulent pas voter dans le sens de leur État. Alors, c'est propre à chaque État, encore une fois, de légiférer pour contraindre leurs grands électeurs à voter pour le candidat auquel ils sont affiliés. Il y a déjà 32 États, plus le district de Columbia, donc la capitale Washington, qui ont adopté des lois à ce sujet-là, mais traditionnellement, parce qu'ils sont à la base sélectionnés pour leur allégeance au parti qui remporte le vote populaire. Normalement, les grands électeurs n'ignorent pas le résultat dans leur État, mais c'est déjà arrivé. C'est un phénomène qui s'est déjà produit à quelques reprises dans l'histoire, mais ça n'a jamais compromis le résultat final. Je donne l'exemple de 2016. 7 grands électeurs avaient voté pour d'autres candidats que Donald Trump ou Hillary Clinton dans le but de priver M. Trump des 270 grands électeurs requis. Mais évidemment, le résultat final n'avait pas changé. Mais en 2020, les 306 grands électeurs contre 232 sont tous allés dans le camp qui était prévu. Et Joe Biden, dans un discours lundi soir, il a pour la première fois dénoncé les efforts de Donald Trump pour renverser les efforts les résultats de l'élection, en fait. Mais à l'heure actuelle, la victoire de Joe Biden est officielle, au point que Mitch McConnell, le leader de la majorité républicaine au Sénat, il avait jusqu'à maintenant refusé de reconnaître la victoire de Joe Biden, mais Mitch McConnell l'a félicité lors d'une allocution élections au Sénat, 6 semaines après le scrutin quand même. Mais il voulait en quelque sorte rester fidèle au président parce qu'il a besoin des électeurs, des partisans convaincus de Donald Trump pour remporter les 2 sièges du Sénat en jeu en Géorgie qui vont décider de la majorité au Sénat. Et parmi les leaders mondiaux, Vladimir Poutine a également félicité Biden, de même que le fidèle allié du président Jair Bolsonaro, président du Brésil, qui a été le dernier du G20 à reconnaître la victoire de M. Biden. Et la prochaine étape, 6 janvier, à ce moment-là, le Congrès va comptabiliser et officialiser les résultats du collège électoral.
Et voilà, des félicitations tardives. Et merci Vincent pour ces éclaircissements ou ces rappels sur le système de scrutin indirect de la présidentielle américaine et sur le collège électoral des États-Unis. Je pense qu'on voit un petit peu plus clair maintenant. Autre question pour vous, Vincent. Joe Biden va donc devenir le 46e président des États-Unis. Or, si on compte bien, il n'y a eu que 44 présidents. Alors, comment fonctionne cette numérotation?
Oui, 44 présidents en histoire. Biden sera donc la 45e président à occuper cette fonction, mais il sera numéroté comme étant le 46e. Pourquoi? À la base, le principe est assez simple. On numérote dans l'ordre les présidents. Par exemple, George Washington était le premier, John Adams le deuxième, et ainsi de suite. Par contre, le problème survient en 1884. Le président nouvellement élu, qui était Grover Cleveland, il est devenu le 22e président. Rien d'anormal. Il était la 22e personne à occuper la fonction. Mais c'est parce qu'il a perdu sa réélection en 1888 contre Benjamin Harrison, 23e président. Mais Cleveland n'avait pas dit son dernier mot. Alors, il a tenté à nouveau sa chance en 1892, où il a battu Harrison. Il est donc devenu le 24e président parce que Harrison était le 23e. Donc, il a été le 22e et le 24e président des États-Unis. C'est donc depuis ce temps-là que le décompte est débalancé, si on peut dire. Mais retenons qu'on numérote les présidences et non les présidents. Alors, Cleveland a eu 2 présidences parce que ses mandats étaient non consécutifs et donc 2 numéros. À l'inverse, lorsqu'un président est réélu pour un 2e mandat, on considère que c'est seulement le prolongement de la présidence en question. Quand on parle de présidence, on parle du temps qui sépare 2 présidents. Alors, on numérote les présidences et non les présidents.
Eh bien, merci également pour ces éclaircissements, Vincent. Et puis, pour terminer, lundi également, on apprenait via Twitter par le président en exercice, Donald Trump lui-même, le départ d'une grande personnalité également très importante aux États-Unis, celle du procureur général Bill Barr, qui va quitter ses fonctions. Est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quelles circonstances?
Oui, quelques minutes à peine après que Joe Biden ait récolté les 270 grands électeurs requis, Donald Trump a tweeté un message annonçant le départ de William Barr, procureur général des États-Unis, suite à un entretien qu'il a eu avec lui. Bon, il s'agit d'une démission qui sera effective le 23 décembre prochain, et c'est le procureur général adjoint Jeff Rosen qui va assurer les fonctions de procureur général jusqu'à la fin du mandat. Ça laisse possiblement entrevoir des tensions qui persistaient entre les deux, une relation qui s'était détériorée depuis notamment que M. Barr avait affirmé n'avoir observé aucune preuve de fraude suite à des enquêtes du département de la sécurité intérieure et de la justice. Et M. Trump l'avait d'ailleurs critiqué à ce sujet. M. Barr aurait aussi choisi de ne pas révéler l'existence d'une enquête sur la situation financière du fils de Joe Biden, Hunter Biden, pendant la campagne électorale. Ça aurait mené probablement à davantage de tensions aussi avec le président qui aurait bien aimé savoir l'existence de cette enquête publiquement-là durant la campagne électorale. Mais les deux, publiquement, ont vanté leur bonne relation, ont vanté leur bilan. Alors, c'est un autre départ de la Maison-Blanche de Donald Trump qui perd son procureur général. Mais c'est un départ, là, il faut le souligner, qui est beaucoup plus cordial que ce qu'on a déjà vu parce que M. Barr était quand même un fervent allié du président. Alors, un départ plutôt cordial. Mais pendant ce temps-là, Biden poursuit toujours ses nominations. S'il est approuvé par le Sénat, il nommerait Pete Buttigieg au poste de secrétaire au transport. Je ne sais pas si vous replacez M. Buttigieg, ancien maire de South Bend en Indiana. Il a été candidat aux primaires démocrates. C'est vraiment là où il s'est fait un nom. Il s'est démarqué au niveau national, donc bien connu maintenant. Et ça fait également partie de la diversité du cabinet de Joe Biden parce que c'est le premier qu'il nomme, premier homosexuel qu'il nomme dans son cabinet actuel.
Voilà, un des anciens candidats qui va rentrer avec Joe Biden dans le cabinet de Joe Biden. Merci beaucoup, Vincent, pour tous ces éclaircissements sur la politique américaine. On se retrouve très bientôt sur les ondes de Choc FM.